Alors, page 18, donc on commence la Mishnah, chapitre 3, Mishnah 3. Ame viget ve'avad mimenu. Une personne qui a amené un get, donc on a un shvir qui amène un get, ve'avad mimenu, et le get a été perdu. C'est-à-dire comme ça, imaginez-vous que j'amène un get de la part de quelqu'un à New York, d'accord, donc j'amène le get. Quand j'arrive à New York, je perds le get, je cherche mes affaires, je ne le trouve pas. D'accord ? Bon, et je le retrouve. Maintenant, entre-temps, peut-être qu'il y a eu des modifications qui sont passées dans le get. On va savoir ce qui s'est passé.
Il a plu.
D'accord ? Donc il a perdu. C'est Avad Mimenu, et il a perdu. Donc, Metsaol et Alter, s'il a trouvé le get tout de suite, cachère, il est cachère. D'accord ? Ça veut dire, on ne se doute pas que peut-être que c'est un autre get qui a été interchangé avec ce get-là. D'accord ? Alors, l'Agmara, il y a une marque dans l'Agmara, qu'est-ce qu'on considère tout de suite ? Il y a un premier avis qui pense, ce qu'on appelle tout de suite ici, personne n'est passé par là-bas. Ça veut dire, par exemple, ça peut être même 2 mois plus tard, mais si par exemple, je sais que je l'ai posé dans ma maison à New York, et qu'il n'y a personne qui est jamais rentré dans ma maison, je sais, elle est restée fermée, donc c'est considéré comme si je le retrouve tout de suite, ça c'est un premier avis. Et il y a un deuxième avis, d'accord, qui dit que... Alors, il dit que, deuxième avis qui va encore plus loin que ça, qui dit que tant que personne n'est resté dans la maison, c'est-à-dire, je reprends mon exemple, imaginez-vous que j'amène un gars à New York, d'accord, et quand je suis à New York, je le cherche, je le trouve pas. 2 mois plus tard, je le trouve. Où je le trouve? Dans la maison.
Dans la maison où j'étais.
Dans la maison où j'étais. Alors, s'il y a personne qui est jamais rentré dans la maison, c'est sûr que c'est considéré que il n'y a pas de problème, personne n'a touché. Mais si maintenant il y a quelqu'un qui est rentré à la maison, mais que j'étais toujours à côté de lui, j'étais toujours là.
Donc tu l'as jamais vu traficoter.
Donc j'ai jamais vu traficoter. Alors ça c'est une machloquette dans la Gemara. Est-ce qu'on considère comme si je le retrouvais tout de suite ou pas? Mais quoi qu'il en soit, s'il n'y avait personne à la maison, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème.
Et celui qui l'avait caché, Vehim tu le retrouves à l'endroit où tu l'avais caché, il dit ah mais je l'avais mis là.
Pareil, il n'y a pas de problème. D'accord. Vehim lave et sinon. Mais si j'ai pas trouvé le guet tout de suite, ça, je le trouve beaucoup plus tard et je le trouve je le trouve dans un endroit que.
Il n'est plus dans son enveloppe.
Il a pu être trafiqué. Non, ça veut dire que peut-être qu'il a pu être changé par quelqu'un d'autre. Pas saoul, il est pas saoul, d'accord. La Gemara explique, d'accord, pourquoi il est pas saoul, parce qu'on a peur que c'est un autre get. On a peur que c'est pas le même get. Alors, la Gemara nous dit, un point intéressant, que sans la Gemara on l'aurait pas, enfin si on avait lu que la Mishnah on le sait pas, la Gemara nous dit plusieurs choses. Premièrement, elle nous dit que cette halakhala dans laquelle on considère qu'un get peut être interchangé, s'applique que si on se trouve dans un endroit dans lequel il y a beaucoup de shayarot. C'est quoi des shayarot? C'est dans un endroit dans lequel il y a beaucoup de caravanes qui passent. Alors, aujourd'hui on aurait dit, dans un endroit dans lequel il y a une forte, beaucoup de circulation. Un hôtel, par exemple. D'accord? Mais si c'est pas dans un hôtel, même si je le trouve 2 ans plus tard le guet est toujours caché. Ça, c'est la première chose que la Gemara nous dit. Deuxième chose que la Gemara nous dit, pour répondre à votre question, monsieur Bismuth, même si on le trouve 3 ans, 5 ans plus tard, si le témoin a un signe pertinent sur le guet, un siman, par exemple, il se rappelle que sur le guet, il y avait un trou à tel endroit qu'on fait pas attention. Et lui, il retrouve ce siman-là. On considère que le guet n'a pas été changé. D'accord? Donc, pour répondre à votre question, si vous avez caché le get et que vous retrouvez le get dans l'endroit où vous l'avez caché, il est caché. Parce que ça s'appelle un signe pertinent.
Bah, la femme ne va pas attendre 3 ans, quand même.
Oui, mais
refaire un autre.
Ça peut arriver. Voilà, on amène les cas. J'ai donné 3 ans pour extrapoler, d'accord? Mais ça veut dire, on comprend le principe.
Mais attends, c'est bien beau ce que tu dis. Mais tant qu'il n'a pas été donné à la femme, c'est pas un get encore.
Très bien. Mais la question qu'on se pose est la suivante.
Pas mal.
C'est le mien, celui-là?
Ouais. Ouais.
La question qu'on se pose est la suivante. Est-ce qu'il peut le donner à la femme?
Imagine que la femme, elle s'est mariée entre-temps.
Non.
Et qu'elle même a eu un enfant.
Mais elle peut pas se marier. Elle a pas
et qu'on retrouve le guet. Oui, mais elle l'a fait.
Non, c'est pas rétroactif. Le guet se passe qu'au moment où...
Il faut qu'elle l'ait eu dans la main.
Bien sûr, c'est sûr, ça. D'accord. Mais la question, est-ce que le guet est cachère ou pas? Est-ce qu'on peut le donner ou pas? Continue la Mishnah. Metsao bachafisa. S'il le retrouve dans le même sac, au bidlou skema, ou dans le même sac, enfin casier, sur, enfin, comment il traduit ça, bidlou skema, en français, à côté, là?
Dans un sac, ou dans
un étui. Ah oui, un étui, d'accord. Bon. Ou dans un étui.
Étui.
D'accord. Alors, ça veut dire comme ça, ou bien immakiro. Ou bien, s'il le reconnaît, cachère, il est cachère. Alors, ça veut dire quoi? Donc ça, c'est encore une fois, monsieur Bussin, pour répondre à votre question. Si moi, j'ai laissé le gars dans un étui, et je le retrouve dans un étui, ou bien, si je le reconnais, ça veut dire il n'y a pas de signe, je peux pas dire que j'ai un signe distinctif, mais je reconnais l'écriture, par exemple. C'est considéré que personne ne l'a touché et c'est cachère. Ça veut dire qu'on se base sur la reconnaissance visuelle. C'est cachère. Bon, donc maquillage, c'est pas que. Non, en fait, c'est pas que reconnaissance visuelle, ça peut être reconnaissance aussi au toucher, je veux dire. Hein. Ça peut être même. S'il y a un trou, ou bien si tu le reconnais, tu reconnais à son odeur ou ce que tu veux, c'est cachère. Pourquoi? Parce que tant que tu le reconnais et que tu penses qu'il n'a pas... Ça veut dire qu'il suffit juste d'avoir une petite preuve, un élément de preuve qui montre que le guet n'a pas été interchangé. Dès que j'ai un élément de preuve, c'est caché. Amevi guet veini chozaken. Deuxième cas que nous amène la Mishnah. Quelqu'un qui amène un guet, donc il amène un guet à New York, veini chozaken. Et il laisse, ça veut dire la personne qui divorce, il le laisse quand il était déjà âgé. Donc lui, il va à New York, mais il est déjà en mauvais état. Pour dire, bon, d'accord, c'est pas une voiture. Au cholé, où il était malade. Le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que peut-être qu'entre-temps, le temps qu'il arrive à, dans l'autre ville, entre-temps, peut-être le mari est décédé.
Bon, donc il était en train.
Et dans ce cas-là, s'il est décédé, il n'y a pas de guet après la mort. Donc le guet ne vaut rien.
Même s'il a été envoyé avant la mort.
Donc la femme n'a pas le statut, bien sûr, parce que on se base sur l'instant dans lequel le guet a été reçu. Donc, il n'y a pas de guet après la mort. C'est-à-dire que le statut de la femme changerait de divorcée à veuve. D'accord? Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Maintenant le problème c'est que lui il sait pas, on n'a pas de téléphone à l'époque. Almana. Veuve, ouais.
Ça change beaucoup de choses.
Ça change beaucoup de choses, bien sûr, pour l'héritage, pour beaucoup de choses. Pour se marier, voilà. Ça change beaucoup de choses.
Ouais.
Bon, alors qu'est-ce qu'on fait?
Eh oui.
Donc, Ameviget Venichosaken Ochole. Le problème c'est que donc, il y a un mari vieux comme ça ou malade qui dit écoute, va divorcer ma femme là-bas. D'accord? Bon, il peut avoir plusieurs raisons, comme on a expliqué plusieurs exemples, parce que peut-être qu'il sait que sa femme ne supporte pas le frère qui est Yabam, etc., et qu'ils n'ont pas eu d'enfant. On a pas avoir plusieurs raisons pourquoi il le fait. Et donc, est-ce que la question qu'on se pose dans la Mishnah ici, c'est est-ce qu'on craint peut-être qu'entre-temps le mari est mort? Réponse de la Mishnah. D'accord? Note Nola, il le donne. Donc, Becheskat Sheukayam. On part sur la présomption que puisque quand le Shliach a reçu le guet, le mari était vivant, on considère que le mari est toujours vivant.
Ah, ça, donc, ça contredit ce qu'on a dit tout à l'heure.
Voilà. Qu'est-ce qu'on... Non, pourquoi?
Parce que tout à l'heure, on avait dit que... Voilà, on a dit c'est le moment où on reçoit. Et là, on dit le moment où on donne.
Non.
Au chaliard, pas à la femme.
Je dis que la femme sera divorcée qu'au moment où on lui donne le guet. Mais, mais le mari... D'accord. Enfin, le shliach qui va donner le guet, il sait pas si le mari est toujours vivant. Peut-être qu'il a eu un accident entre-temps.
Oui, mais et peut-être que même qu'il était jeune, il a eu un accident
très bien.
Pour de vrai.
Alors, c'est pour ça qu'on te dit que nous, on passe sur la présomption que s'il était vivant au moment où le shliach l'a reçu le guet, certainement que même que maintenant, au moment où on va donner le guet, et au moment où le guet va démarrer, certainement qu'il est vivant.
Mais maintenant, si on fait une enquête et il s'avère qu'il est mort, au moment où il a donné le guet, il est mort.
C'est pas bon.
Donc, elle n'est pas divorcée à ce moment-là, elle devient veuve même avec son guet dans la main.
Si, effectivement, comme dit la Gemara parle de ce cas. Apparemment, c'est quelqu'un qui est déjà arrivé.
Oui.
Si, effectivement, on apprend que le mari est mort entre-temps, et qu'on arrive à prouver qu'il est mort avant que le guet a été donné, bon, c'est assez facile, puisque bon...
Donc elle est almana, elle est
veuve, mais elle n'est pas divorcée. Bat Israël en soi le Cohen. Bon, on continue, c'est pas fini. Deuxième cas. Bat Israël en soi le Cohen. Donc une fille d'Israël, donc quand on dit une fille d'Israël, ça veut dire une fille qui n'est pas Cohenette. Une fille juive standard, Anesoa le Cohen, qui est mariée avec un Cohen. D'accord? Donc une fille juive, normale, pas Cohenette, ni rien du tout, une fille juive standard qui est mariée avec un Cohen. Très bien. Bon mariage, pas de problème. Va à l'arbala l'imdina tayam. Et son mari est parti, l'imdina tayam. D'accord? Ça veut dire quoi? Il est parti...
Outre-mer.
Outre-mer. Bon. Alors le problème est le suivant. Tant que le mari est vivant, elle a le droit de manger la trouma. Mais dès que le mari meurt, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que le mari, on n'a pas eu de ses nouvelles, d'accord? Il est parti. On n'a pas eu de ses nouvelles, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il fait peut-être des bonnes affaires et qu'il est en train de ramasser beaucoup d'argent, Baruch HaShem, d'accord? Il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas de téléphone, c'est ça, donc on ne sait pas. Donc, la femme, elle ne sait pas... Est-ce que ça voudrait dire que tant qu'elle n'est pas sûre que son mari est vivant, elle doit s'arrêter de manger la terouma? Parce qu'on a dit que si le mari est mort, elle n'a pas de manger la terouma. Nous répond la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ochelet Bateruma, même principe et Cheskat Sheukayam. Elle peut continuer à manger la Teruma avec la présomption qu'il est vivant.
Mais qui va lui donner cette Teruma?
Ça veut dire, et c'est d'ailleurs le gros problème qu'on a. C'est pour ça que le Bedin de Paris a dû se réunir pour le cas de l'avion qui s'est passé, encore l'avion du Brésil. Parce que le problème qu'on a, c'est que tant qu'une personne, on n'est pas sûr qu'elle est morte, on a la présomption qu'elle est vivante. Donc, ils avaient un vrai problème ici, parce que même si on suppose qu'ils sont morts, quand? Qui sont niftar, mais
sûr.
On n'est pas encore sûr. Alors comment ils ont fait le Bezin? Dans les faits, ils ont déjà fait ils sont déjà dans les Shiva. Je crois qu'ils ont déjà fini même. Comment ils ont fait pour faire les Shiva? C'est très simple, ils sont basés sur une jurisprudence du Rav Ovadia Yosef, qui s'était passé en Israël il y a 20 ans, je crois, 20 ans ou 25 ans. Il y avait un cas qui s'était passé dans l'armée israélienne. Il y avait un cas qui ressemblait beaucoup à ce cas. C'est un cas dans lequel on n'avait pas trouvé on n'avait pas trouvé les restes de l'avion, mais on se doutait que on avait des signes qui nous montraient que certainement l'avion est parti. Et bon, là-bas, alors Rav Avadia Yosef, il y avait tous des critères qu'il a donnés, dans lesquels il s'est basé pour dire que on peut divorcer, on peut considérer que la femme est almana et veuve. Donc ils sont basés, le Rav Yirmiyahu Cohen de Paris, il s'est basé sur cette jurisprudence pour dire que, d'accord, pour dire que cette femme-là, on la considère comme une femme qui est almana et qui est veuve. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait les shiva, etc. Mais il faut savoir que c'est pas simple, il faut traiter au cas par cas, puisque c'est très compliqué. Pourquoi ? Puisque on a le principe qu'on nous dit dans la Mishnah ici, que Becheskat chez Ukayam, tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, pour cette femme-là par exemple, que son mari est parti outre-mer, et que peut-être qu'il est mort entre temps, tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, on considère que Becheskat chez Ukayam, que certainement que le mari est encore vivant. Julien, tu dois partir ? D'accord. Alors, Asholea Khatato Mdinatayam, Makrivinota Becheskat chez Ukayam. Deuxième principe aussi, d'accord ? On ne parle pas du tout de guette non plus. Donc une personne qui envoie son khatat, donc une personne qui a fait une faute. À l'époque du Beit HaMikdash, quand on a fait une faute, il fallait, après la Teshuvah, pour se faire expier devant Akadosh Baruch Hu, et pour qu'on soit accepté devant Akadosh Baruch Hu comme avant la faute, donc après la Teshuvah, on envoyait un sacrifice à Dieu. De la même manière que quand le roi, ça veut dire vous excusez devant le roi vous a excusé, vous avez fait une bêtise, une fois que vous avez excusé, vous allez envoyer un bouquet de fleurs, vous allez envoyer un cadeau. D'accord ? Vous pouvez faire ça avec votre femme aussi. C'est accroché. D'accord, on s'est arrangé, Baruch HaShem, tout va bien, après t'envoies un bouquet de fleurs, pourquoi t'envoies un bouquet de fleurs ? D'accord ? Pour que tu sois chéri à ses yeux comme avant. Très bien. Alors, donc ça c'est le concept du Korban Khatat, du sacrifice Khatat. Donc on a quelqu'un qui habite outre-mer, qui a fait une faute. Et que donc il veut se faire excuser, il veut être devant Dieu comme avant. Donc il envoie un sacrifice outre-mer. Et il l'envoie par quelqu'un qui arrive à Jérusalem. Le problème qu'on a c'est le même. C'est qu'on ne peut offrir un sacrifice ratat que d'une personne qui est vivante. Que si la personne pour qui on offre ce sacrifice, il est vivant. Sinon, c'est interdit, c'est très grave. Parce qu'il est déjà mort, c'est fini, il est déjà en haut. On n'a pas le droit de le faire. Pareil.
Peut-être c'est un ratat.
C'est un ratat.
Pareil. Autre chose, on peut.
C'est plus compliqué le ratat. D'accord ? Alors, parce que dans les autres sacrifices, en général, c'est la personne elle-même qui doit l'amener. Pourquoi ? Parce que dans les autres sacrifices, le propriétaire du sacrifice, en général, enfin celui qui offre le sacrifice, il doit mettre sa main fortement, il doit appuyer sa main fortement sur le sacrifice, ce qu'on appelle la smicha. Et le khatat, c'est un des rares sacrifices dans lequel il n'y a pas besoin de le faire. C'est pour ça qu'on peut le faire à distance.
J'ai un monsieur qui était décédé il y a une dizaine d'années, qui m'a laissé une enveloppe de sous pour je ne sais plus quoi. Et quand il est décédé, je savais que ça allait mal se passer pour lui, puisqu'ils l'ont incinéré à la famille, etc. J'ai fait un don en son nom.
C'est bien, c'est super.
De l'enveloppe.
Pas de problème, bien sûr, pas de problème. C'est pas un problème. Le problème du khatat, c'est qu'on peut pas offrir le sacrifice de Beit HaMikdash au nom d'une personne qui est niftar. On a pas le droit, c'est trop tard, c'est fini. Maintenant, c'est-à-dire quand il est mort, il est mort. Maintenant,
les legs aujourd'hui sont permis.
Oui. Donc, la même chose. Qui nous dit qu'il est encore vivant ? Peut-être qu'il est mort. Lui, il a envoyé un sacrifice d'outre-mer, peut-être qu'il est mort. Même principe. Makrivi nota bechaskat shukayam, on offre un sacrifice bechaskat shukayam avec la présomption chez Ukayam qu'il est toujours vivant. Vous pouvez amener Julien au taxi, s'il vous plaît. Je continue la Mishnah d'Alet. Shlosha dvarim amar Rabbi Eliezer ben Parta lifnei chachamim. Donc dans la Mishnah précédente, dans cette Mishnah, on a appris.
Il est là.
D'accord. Qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris un grand principe dans la Mishnah numéro 3. On a appris le principe que tant que...
Attends, j'avais une question quand même
sur la
Mishnah d'avant.
Oui.
Comment elle peut manger du... Il n'est pas là, son mari. Comment elle mange la trouma ? Qui c'est qui lui donne cette trouma ?
Lui donne. Un autre Kohen peut lui donner.
Ah d'accord, ok. C'est pas la
question. Alors, on a appris dans cette Mishnah Guimel, on a appris un principe important, on a appris que on garde la présomption qu'une personne est vivante, tant qu'on n'a pas la preuve du contraire. Très bien. Alors, notre Mishnah, d'accord, va nous dire que quand une personne est passée par un stade de danger, même là, cette présomption va être cassée. Donc c'est le cas qui s'est passé notamment avec cet avion. D'accord ? Donc écoutez bien. Donc on va parler de plusieurs cas ici, des cas dans lesquels la présomption de vie est brisé. Je sais pas comment on dit brisé sur une présomption. Enfin, la présomption saute. Shlosha dvarim amar Rabbi Eliezer ben Parta lifnei chachamim. Trois choses a dit Rabbi Eliezer ben Parta devant les chachamim à propos de ce qu'on a expliqué, à propos de ces fameuses présomptions. Vekimu et dvarav et les chachamim ont accepté ces paroles. Donc ils les ont maintenues à la halakha. Trois choses. Premièrement, al ir shi'ikifa kerkom. Une ville qui a été entourée par des soldats. D'accord ? Ça c'est le premier cas. Premier cas de figure.
Siège.
Donc un siège, elle a été assiégée, on ne sait pas ce qui s'est passé après. On a perdu quelqu'un de vue, mais on sait qu'il a été assiégé, il était dans une ville qui a été assiégée. savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de pitié, hein, c'est pas comme aujourd'hui, les droits de l'homme, etc. Bon, même aujourd'hui. Ve'al asfina amitarefet bayam. Deuxième cas, si c'est un bateau, d'accord, on sait qu'il y a un bateau amitarefet bayam, on sait que s'il y a un bateau, on l'a vu de loin, d'accord, ou bien un autre bateau qu'il a vu, qui était en train d'être titubant dans la mer, enfin qui était pas stable dans la mer, d'accord, à cause d'une tempête. Donc il y avait une tempête dans la mer, on sait qu'il y a eu un problème. Donc pour reprendre notre cas de l'avion, on sait qu'il y a eu un problème dans l'avion. Mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on sait qu'il y a eu un problème. Ve'al ayotselidon, d'accord. Et également le troisième cas c'est quoi? Alayotselidon, ça veut dire pour celui qui sort pour juger, d'accord. Bedine nef, donc de quoi il va juger? Il va juger dine nefesh. Ça veut dire comme ça. Il faut savoir que il y avait le bedine de 23 de chaque ville, donc il y avait un bedine de 23 rabbinim qui se rassemblaient chaque fois qu'il y avait un cas de dîner nefashot. Ça veut dire que chaque fois qu'il y avait un cas, qu'il y avait une peine de mort. Il faut savoir que des juges qui se rassemblent pour appliquer une sentence de peine de mort sur quelqu'un, ils savent qu'ils ont la vie fragile. Parce qu'ils savent que celui sur lequel on va appliquer la peine de mort va savoir si c'est pas un mafioso, va savoir si c'est pas à l'envoyer un tueur. À l'époque déjà on avait ce problème là.
Oui, on partait déjà que 9 chances sur 10,
ça veut dire, il y va, d'accord, le juge, mais il sait qu'il risque d'y laisser sa peau.
Ouais. Vous
savez. Bon. Là on dit comme ça. Donc c'est trois cas que je viens de dire. Premier cas, une ville qui a été assiégée. Oui, donc voilà justement, donc je dis rapidement. Premier cas, c'est une ville qui a été assiégée. Deuxième cas, c'est un bateau. C'est-à-dire la dernière chose qu'on a vu du bateau, c'est que le bateau était pas stable sur la mer. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Peut-être qu'il a tenu, peut-être qu'il n'a pas tenu. Troisième cas, c'est un juge qui va juger, d'accord, une sentence de mort. Et après on l'a perdu du vue. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a disparu. Comprenez que on peut avoir de bonnes raisons de penser qu'il n'a pas disparu, mais qu'il a été tué. Bon, Shehen Becheskat Kayamin. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Shehen Becheskat Kayamin. Ces trois cas qu'on vient de dire, on considère qu'ils ont la présomption d'être toujours vivants. Ça veut dire que même si on les a perdus de vue, on a la présomption qu'ils sont toujours vivants. Comme le Meiri explique, il dit que certainement, même si la ville a été assiégée, certainement que la ville n'a pas été conquise, certainement que le bateau n'a pas été brisé, et certainement que celui qui est parti pour être jugé, certainement qu'il n'a pas été tué. Bon, c'est optimiste, très bien. Aval, mais Irshekvashakarkom, si c'est un cas dans lequel. Donc si c'est un cas dans lequel il y a une ville qui a été conquise, elle n'a pas été assiégée, elle a été conquise. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Ah, c'est différent déjà. Vous comprenez? Là, c'est pas simplement assiégée. Là, on sait qu'elle a été conquise, c'est-à-dire on sait qu'il y a eu des morts. C'est sûr qu'il y a eu des morts. Bon, donc là c'est différent. Deuxième cas, Usfina Shavda Bayam. Ou bien un bateau, d'accord? Chez Abda Bayam, qu'on sait qu'il s'est, le bateau il s'est brisé. Vous allez me dire, si le bateau il s'est brisé, c'est sûr que les gens ils sont morts. Alors il y a des commentaires qui expliquent qu'on ne parle pas d'un bateau qui est brisé, on parle d'un bateau dans lequel on sait que le commandant de bord est mort. C'est-à-dire qu'une fois que le commandant est mort.
On a retrouvé le bonhomme qui flottait.
Voilà, on sait que le bateau est resté, mais le bateau est parti.
On a retrouvé des fauteuils qui flottent.
Bon. S'ils disent que le gouvernail du bateau est inutilisable ou qu'il n'y a plus de pilote.
Il n'y a plus de pilote, voilà. Mais sachez qu'il y a la première explication qui dit que si on a vu le bateau, d'accord, si on a vu le bateau tomber, c'est possible qu'il y ait une personne qui va nager, si on n'est pas trop loin de la rive. Bon.
Au bout d'un mois.
Usfina Shavda Bayam. À savoir si elle arrive sur une île ou j'en sais rien, moi.
Oui.
Usfina Shavda Bayam.
C'est arrivé.
Ou, je sais pas, on m'a raconté qu'il y a une série télévisée dans laquelle il y a un truc. Enfin, c'est ça? Bon. Alors, Usfina Shavda Bayam, donc ou bien un bateau qui a été perdu dans la mer. D'accord? Donc comme j'ai dit, ou bien le bateau, on sait qu'il a été brisé, ou bien le bateau n'a pas été brisé, mais on sait que... ça veut dire, la dernière nouvelle qu'on a eue du bateau, c'est qu'on sait que le bateau, le gouvernail est cassé, ou bien il n'y a pas de pilote. Ça veut dire que le bateau est seul, quoi. Le bateau, il va avec la vitesse du vent. Bon. Va yotse le arek. Ah, écoutez bien le troisième cas. Celui, on sait, d'accord, que ayotse le arek, ça veut dire quoi? C'est-à-dire celui qu'on sait que le bedin a tranché son deal, qu'on doit le mettre à mort.
Tranché bien. Quoi?
Son deal.
Oui, parce qu'ils ont pu trancher.
Ils ont tranché le deal, ils ont dit, ça y est, ils ont tranché le jugement, ils ont dit, c'est fini, on va le mettre à mort. Très bien. Maintenant, après, on n'a pas de nouvelles. Je sais pas, il y a un problème, il y a un tremblement de terre, le bedding qui est jugé, ils sont morts.
Il ne faut pas appliquer la peine.
Donc, on ne sait pas si le gars est mort ou pas. On ne sait pas s'il est exécuté ou pas. Peut-être qu'il s'est sauvé. Bon. En tout ça, not nimaleem, khumre, écoutez bien ce qu'on dit là, l'acha. Et voilà le problème qu'on a ici. Not nimaleem, khumre chaim, khumre metim. on leur applique les chumrot des vivants et les chumrot des morts. C'est-à-dire qu'on les considère en même temps comme vivants et en même temps comme morts. Ça, par exemple, si c'est une femme qui est mariée avec un Kohen, est-ce qu'elle peut manger la terouma? Non. D'accord. D'un autre côté, est-ce qu'elle peut se remarier? Non, non plus, parce qu'on fait on considère comme si elle était vivante. Donc on applique les chumrot de quelqu'un de vivant et les chumrot de quelqu'un de mort. C'est-à-dire qu'elle considère comme si que son mari était mort, donc elle ne peut plus manger la terouma, etc. Et on considère aussi comme si son mari est vivant, donc elle ne peut pas se remarier. Donc c'est le fameux statut de Haguna. Bon, alors sachez que on traite ça au cas par cas et que les Beddin, d'accord, les Beddin, ils sont spécialisés pour ça.
Il y a des grosses délibérations.
Surtout, il y a des Beddin qui sont spécialisés pour ça en Israël, pour essayer de trouver toujours des portes de sortie. Parce qu'on peut rester des années comme ça, elle peut rester jusqu'à la fin de sa vie comme ça.
La femme de Renarade, elle est toujours...
Non, il n'y a pas de délai.
La femme de Renarade, elle est toujours à Gouna.
Il n'y a pas de délai.
Alors, on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort, etc. Ils nous disent oui, il est en otage.
Renarade, on ne sait pas, on espère qu'il est vivant. Bien qu'on pense que, mais on ne sait pas.
J'ai pas compris comment ils ont pas tranché parce qu'il y a une présomption vraiment qu'il est mort.
Bat-Israël, c'est ça le problème.
Faut pas rêver. On n'a pas eu un qui est revenu vivant.
Bat-Israël, c'est déjà arrivé. Je conclue avec ça. Bat-Israël, Kohen, Uvat Kohen, Israël, Otochel, Bitrouma. Donc c'est pour ça que, d'accord. C'est pour ça qu'une fille d'Israël qui est mariée avec un Kohen, etc. Donc elle ne pourra plus manger la terouma. Pourquoi elle ne peut pas manger la terouma? Parce que elle est considérée comme, parce que elle prend les chumrot des vivants et les chumrot des morts. Et on s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà.